Mais voilà, la musique se clôture. On est à 8h17, toujours dans les promesses de l'aube, avec notre invitée, Kabiria Chomel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Kabiria, très rapidement, tu es créatrice radiophonique. Comment tu te définis ?
Oui, je me définis comme réalisatrice sonore.
Réalisatrice sonore.
Principalement documentaire et puis monteuse.
D'accord.
Ouais.
Et là, on t'invite parce que tu viens de réaliser, publier un nouveau documentaire qui s'appelle La Fugue et le Canon.
Oui, tout à fait.
Tu peux nous en parler un petit peu ?
Eh bien, La Fugue et le Canon, c'est un documentaire sur des jeunes filles qui sont jugées pour des faits de délinquance et qui, du coup, font un passage en IPPJ. IPPJ, c'est Institution publique de protection de la jeunesse. Et voilà, on les entend s'exprimer par rapport à cette expérience-là d'enfermement, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même assez coercitif comme, comme dispositif. C'est un documentaire qui est construit en trois parties. Il y a une partie où on suit particulièrement une des jeunes, un peu sur le long cours comme ça, dans ses différentes un peu péripéties aléas de sa peine.
Parce que oui, c'est pas appelé prison, mais c'est quand même l'enfermement.
Mais c'est un peu sur la ligne de crête comme ça. Ça relève de la protection de la jeunesse, mais c'est un peu cette confusion ou ce glissement entre protection et puis punition, quoi. Ce que dit une des jeunes très très bien. Il y a vraiment les deux dimensions, c'est protéger et punir, mais sauf que ouais, ça reste très dur.
Dans le documentaire, on entend que ça fait suite à du travail, à un travail que tu avais fait déjà dans un centre.
En fait, en Belgique, il y a un centre pour filles qui est l'IPPJ de Namur.
Il n'y en a qu'un, c'est ça que tu dis.
Oui,
d'accord.
Les autres sont pour garçons, donc c'est des institutions qui sont non mixtes. Et effectivement, l'année précédente, on avait animé un atelier de radio et musique avec Léa Roger et Célia Jukowski. C'est ce qui, moi, m'avait permis de mettre un pas dans l'institution et de rencontrer les filles que j'ai enregistrées pour le documentaire.
Et donc, c'est ça qui t'a donné l'envie, l'idée d'aller plus loin, dans leur expression ?
Presque la démarche inverse, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire ce documentaire et que de proposer un atelier, c'était une manière pour moi de rentrer dans l'institution et de pouvoir rencontrer.
Oui, parce que ça n'a pas l'air évident, on l'entend aussi dans le documentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ?
Non, ce n'est pas évident. Moi, l'expérience que j'ai eue, ça a été possible pour animer un atelier. Ça n'a plus été possible. On a voulu reproposer ce même atelier et l'institution n'a pas voulu. Et puis, du coup, moi, je suis venue avec ma proposition claire de documentaire. Et là, ça n'a pas du tout été accepté. Entre autres parce que j'avais déjà un lien avec Chloé que j'étais venue voir en visite. Et à la suite des ateliers, et que ça n'a pas été bien pris par l'institution, par exemple.
Le fait que tu aies un lien n'a pas été bien pris, qu'est-ce que ça veut dire ?
On m'a reproché de mélanger professionnel et personnel, de créer des liens qui soient de l'ordre affectif avec les jeunes, et que ça crée de la confusion.
Et qu'eux n'auraient pas droit à ça.
Oui, voilà, tout à fait. C'est vraiment ça.
Hein. Oui.
Ouais. Ouais.
Donc tu te retrouves obligé à faire cette partie-là au téléphone, avec des contraintes horaires et de durée qu'on entend dans le documentaire, qui ne sont pas évidentes.
Mais c'est ça, une fois que j'ai compris que je ne pourrais pas retourner à l'intérieur ou voir les filles d'une quelconque manière. Je me suis repliée sur la possibilité d'appeler. Et donc voilà, elles ont droit à 7 appels par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup. Elles n'ont pas de téléphone portable à l'intérieur. Et c'est des appels de 10 minutes entre 19h et 21h, je crois. Ouais.
Mais pour elles aussi, pardon, à chaque fois, t'avoir au téléphone, c'est un appel de leur semaine.
Tout à fait.
Mine de rien. Et donc, c'est trouver un équilibre dans tout le temps, j'imagine.
Exactement. Parce que là-dedans, il y a... je sais plus comment c'est réparti, mais en plus, il y a un dispatch entre les appels de la famille et les appels des amis, amoureux. Et... mais il se trouve que Chloé, il y avait l'espace pour que j'appelle et qu'elle était plutôt contente qu'il y ait cet appel, ce lien-là. Comme elle dit, c'est quand même un moment qu'elles attendent hyper fort. Le téléphone, c'est un peu leur contact avec l'extérieur, quoi. Donc, oui.
Et il y a des choses très fortes. Donc, ça commence par la fugue. On commence par ça, en fait. Donc, au départ, on entend parler de la fugue et on ne sait pas vers où on va aller, finalement. Et ça commence avec Alia. Et donc, c'est... Enfin, moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce terme de fugue. Parce que c'est partir, en fait, d'un endroit. En prison, on ne va pas parler de fugue, en fait. Et donc, pourquoi on utilise ce terme de fugue ici ?
Alors, la fugue... Donc, il y a des filles qui fuguent d'IPPJ. Faut savoir par ailleurs que l'IPPJ, en tout cas en section ouverte, il y a deux sections. Il y a une section fermée pour vraiment les délits graves, et puis une section ouverte pour des délits qui seraient plus mineurs. Et en section ouverte, par ailleurs, les grilles de l'IPPJ, bon, il y a une personne qui surveille l'entrée, mais c'est assez relativement facile de sortir, on va dire. Et puis en fait, aussi, elles ont au bout d'un certain temps, elles peuvent rentrer chez elles le week-end. Et donc, si elles ne rentrent pas à l'IPPJ à la suite du week-end, c'est considéré comme une fugue. Après, moi, je me suis intéressée à la question de la fugue en amont de l'IPPJ. C'est-à-dire que Alia, elle fugue, mais pas de l'IPPJ. C'est-à-dire que en IPPJ, il y a beaucoup de filles qui sont enfermées parce que elles fuguent ou elles fuguaient beaucoup de chez elles ou d'institutions dans lesquelles elles étaient préalablement placées. Donc, le cas d'Alia, c'est que ce qu'elle raconte, c'est qu'elle est en pouponnière depuis ses... Enfin, elle est rentrée en pouponnière à 2 ans, puis elle a fait toute sa vie en foyer, en institution. Dès qu'elle, elle a énormément fugué, et que c'est à cause de ses fugues que sa juge l'a mise en IPPJ. Voilà. Oui, c'est ça. Et moi, c'est par ailleurs la question de la fugue, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi pour. Il y a quelque chose qui m'intéressait dans ce mouvement-là, justement, entre un élan, le fait d'aller vers l'extérieur ou d'être dans de la survie qui est en mouvement, qui est dangereuse, que on peut, il y a énormément de choses à dire, hein. Mais cette sanction qui vient là-dessus.
Oui, parce que c'est cette envie de liberté. Et puis finalement, on te réenferme parce que tu as pris ta liberté, en fait.
Oui, tout à fait.
Quelque part, il y a quelque chose un peu comme ça.
Avec un argumentaire de protection aussi, parce que enfin, c'est chaque fois... Ah ouais, non, mais enfin, la police m'a trouvé... Enfin, il y a eu un contrôle d'identité, et donc la fille a été détectée. Et c'est pour ma protection, parce qu'ils ont peur de prostitution, etc. Enfin, et donc, pour ma protection, ils me réenferment.
Ouais. Après, enfin... Faut pas. Enfin, je trouve que encore une fois, elles ont un discours assez juste sur tout ça. C'est-à-dire que il y a de l'ambivalence, pas non plus noir et blanc. De fait, une mineure de 14 ans qui fugue énormément, c'est de la. Enfin, il y a du danger, c'est de la mise en danger, etc.
Oui, elle le dit elle-même.
Ouais, voilà, elle le dit très clairement, et que parfois, c'est nécessaire d'extraire. Un jeune, une jeune d'un milieu qui est super toxique, qui est dangereux, etc. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, pour avoir un tout petit peu été dans ces institutions, et surtout pour les avoir écoutées, j'ai l'impression que ce qu'elles disent, c'est qu'elles reçoivent énormément de mépris et un cadre qui est trop strict, parce que elles sont jugées pour des faits de délinquance, alors que en fait c'est des jeunes qui ont souvent un parcours ultra dur et qu'elles ont réussi à, enfin c'est vraiment des personnes qui ont des ressources incroyables, qui ont surmonté des épreuves énormes pour leur âge surtout, et qu'il n'y a pas du tout de, je sais pas, de valorisation ou de soin de ça. C'est au contraire les juger comme délinquantes, ce qui est hyper dénigrant, quoi.
Alors qu'elles sont très lucides sur les choses, et elles parlent elles-mêmes de maturité, en fait, qui est déjà là très tôt, et on l'entend. On l'entend complètement. Voilà. Et ça, en effet, ça n'est absolument pas valorisé non plus.
Mmh. Ouais, c'est assez impressionnant, je trouve, la qualité de leurs paroles et de la réflexivité qu'elles ont sur elles-mêmes et puis sur leur situation.
Et toi, dans tout ça, parce que ici le documentaire il fait 53 minutes à peu près, j'imagine que tu as eu des tas de rushs comme ça, et comment est-ce que tu as fait un peu des choix de paroles?
Là où j'ai eu le plus d'enregistrements, c'était avec Chloé au téléphone. Et du coup, le choix de montage, il s'est fait sur l'envie de montrer différentes situations, donc d'éviter trop de redondance aussi dans les appels, et puis de créer un rythme dans ce dispositif-là. Donc pendant presque une demi-heure du documentaire, on suit appel par appel, et c'est pas évident de trouver une rythmique là-dedans, surtout qu'il y a une qualité d'audibilité qui peut être fatigante au bout d'un moment. Donc ça, c'est des critères qui ont pu jouer, mais c'était surtout... J'ai l'impression que là, à chaque appel, c'est comme si ça venait compléter un peu le puzzle, que ça nous montre à chaque fois une facette différente de ce qu'elle peut vivre, et que c'était ça qui... c'est sûrement ça qui a guidé un peu ma sélection. Pour le passage... Pour la partie 2, le passage où on les entend à l'intérieur, on entend donc trois filles in situ dans l'IPPJ. Ça, à vrai dire, j'avais pas énormément de rush de matière, parce que j'ai pu très peu enregistrer. Ça, c'est des enregistrements que j'ai fait pendant les ateliers, que j'ai fait à part, un peu en loose day, dans le sens où c'était pas exactement le cadre de l'atelier, quoi. Et donc ça, j'avais pas des heures et des heures de matière, mais pour le coup, c'était de la matière très qualitative, je trouve, dans leurs paroles. Et puis Alia, il se trouve que Alia, je l'ai rencontrée dans le foyer où elle vivait. Et ça, oui, j'ai enregistré plusieurs filles. Donc mon envie, c'était d'enregistrer des filles qui soit avaient été en IPPJ, soit allaient y aller. Et donc pour faire avoir presque une séquence chronologique comme ça. Et donc j'ai enregistré plusieurs histoires de filles, soit... C'est ça, qu'avait eu un rapport d'une manière ou d'une autre avec l'IPPJ. Et là, la sélection, c'est vraiment la rencontre avec Alia. Et puis, oui, pareil, la qualité de sa parole et le regard qu'elle porte sur son parcours, quoi.
On peut peut-être écouter un premier extrait ?
Ouais. Du coup, le premier extrait, c'est vraiment l'introduction du documentaire.
T'es dans les rues de Bruxelles, le soir, t'es avec deux, trois copines... la police se balade et ben voilà, vous rentrez pas chez vous, non. Contrôle d'identité, sauf que t'as pas ta carte d'identité et qu'on te prend avec au commissariat. On se rend compte en fait que t'es une mineure en fugue et qu'on te redépose au centre. Mais le lendemain, tu refugues. C'est ça que je faisais, moi. La fugue et le canon.
La fugue et le canon. Première partie. Les fugues de Alia.
Les fugues d'Alia.
D'ailleurs, il y a tout un rapport avec les copines qui, peuvent faire ce qu'elles veulent. Et Alia qui est presque née en fait en institution et qui l'après-midi peut pas aller de 14 à 16 heures avec ses copines.
Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Et là aussi, du coup, la dimension de punition, elle le dit très clairement aussi, ce truc de l'impression d'avoir été punie de pas avoir de famille, elle dit. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que même quand c'est pas censé être un cadre punitif, donc c'est ton lieu de vie, le foyer, l'institution, t'es quand même dans un cadre qui est très contraignant, quoi. Effectivement, en termes d'horaire, en termes de justification de tes déplacements. Et puis, moi, ce que je trouve marquant aussi dans ces lieux, c'est pour y avoir encore une fois un tout petit peu été, hein. Mais c'est la contrainte à la collectivité permanente. C'est quand même pas rien de passer ta vie avec 10, 12 autres personnes qui sont pas des gens avec lesquels t'as forcément grandi ou avec lesquels t'as forcément d'affinité, de manger tous les jours à 15, de boire dans des gobelets en plastique toute ta vie. C'est singulier, quoi. Et puis, évidemment, la dimension affective qui, malgré... Enfin, je doute pas qu'il y a plein d'éducs qui font un travail formidable, mais qui est forcément pauvre, quoi. Tout ça amène à se poser énormément de questions, je pense.
Et quelles questions est-ce que ça t'amène quand tu dis ça?
Là, je pense, je dis ça t'amène à te poser énormément de questions. Je pense en tant que jeune, justement, en tant que jeune personne qui grandit dans ce cadre, où je comprends qu'il y a le besoin de s'évader un petit peu, quoi.
Et surtout qu'elle voit à l'extérieur d'autres vies.
Ouais, tout à fait. Oui.
Et donc on est forcément dans un comparatif à un moment donné.
C'est ça. D'autres vies et puis d'autres cadres, d'autres, enfin tout simplement des personnes avec des parents. Là, pour le cas de Alia, qui sont présents, qui donnent l'autorisation ou pas d'aller, de sortir, d'avoir une chambre à soi, tout ça.
Oui, parce que ça n'existe pas, en effet. Elles sont plusieurs par chambre.
Mais en IPPG, elles ont des chambres individuelles. Et j'ai l'impression, en foyer aussi, c'est juste que ça reste impersonnel, d'une manière ou d'une autre, quoi.
Et ensuite, donc on est dans cette première partie, et puis d'autres filles arrivent en fait quand on part sur l'IPPJ.
Ouais, c'est ça. C'est d'autres personnes que je rencontre en IPPJ. Mais non, juste pour revenir sur le lien entre la première partie, donc c'est cette idée effectivement de rencontrer les. Enfin, de parler des faits qui peuvent t'amener en IPPJ, c'est pour ça qu'on rencontre Alia. Mais c'est aussi, finalement, moi, ce dont je me suis rendu compte en faisant ce documentaire, c'est qu'il y a un continuum de placement qui, là, est évident. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de filles qui sont en IPPJ ont ce parcours-là de foyer, de placement, d'institution en amont. Et donc, ça dit quand même quelque chose de très fort de quel profil se retrouve dans ces institutions. C'est-à-dire que c'est des personnes qui souvent viennent de milieux ultra populaires, avec un capital social, de ressources qui est faible et qui du coup fait que tu te retrouves démuni sans trop la possibilité d'avoir des alternatives à ça. Et donc après, oui, on rentre en... Tu voulais dire quelque
non,
chose
non, 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 vas-y.
C'est ça, et donc la deuxième partie, on rentre dans les murs de l'IPPJ et on entend Katharina, Jennifer et Chloé qui nous font un peu le portrait de l'institution, en fait.
Et elle parle justement du rapport aux parents, un moment. En tout cas, je me souviens d'une personne qui dit que parce que les parents ont fait des conneries, en gros, bah, elles en payent les conséquences.
Ouais, ça c'est très très clair. Oui. C'est très clair. Il y a même Chloé, à un moment donné du documentaire, qui dit en fait, les rôles sont inversés, tout est à l'envers dans ce système, quoi. C'est pas nous qui devrions être sous contrôle comme ça. Mais bien j'allais dire la famille qui fait défaut, mais en fait on pourrait élargir la loupe et que c'est tout un système qu'il faudrait remettre en question, quoi. Parce qu'évidemment qu'il y a plein de ressorts systémiques dans ces histoires.
Et peut-être d'autres moyens de faire aussi.
Bah oui, tout à fait.
Ouais. Parce que finalement, se retrouver en foyer et avoir envie de sortir de ça et se refaire enfermer quelque part, en fait, on a cette sensation d'un vertige interminable comme ça.
Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est des institutions qui sont, j'invente rien, qui sont un peu malades, quoi. Et où il y a quand même très peu de dimensions de soins et puis tout, juste d'écoute et de considération pour les personnes qu'il y a en face.
On écoute un deuxième extrait?
Ouais, c'est parti.
Moi, je sors le week-end. Le plus difficile, bah, c'est de revenir. Parce que, bah, en général, pendant la petite heure, tu vas plus goûter à la liberté. Puis à partir du moment où tu peux avoir des week-ends, etc., bah, tu vas goûter à la liberté. Et puis après, bah, c'est toi qui reviens pour te faire réenfermer, en fait. Donc, bah, c'est un peu compliqué et tout. C'est ça le plus dur, sinon, voilà. En fait, c'est une question de confiance, etc. Parce que, bah, à partir du moment où tu reviens pas, mais déjà... Il faut savoir que forcément tu vas revenir, en fait. Il y a toujours un moment donné ou l'autre où on te retrouvera quelque part, que tu feras quelque chose que tu dois pas. Parce qu'en général, c'est pas tes parents qui te gardent quand tu fugues. Donc bon, voilà, quoi. Et puis après, bah, en plus, t'as plus de week-end, tu sors plus, t'as plus rien. Donc c'est un peu... Donc le mieux, c'est de revenir, même si c'est dur, c'est vraiment super dur. Mais... C'est le mieux à faire si tu veux vraiment avoir ta vraie liberté un jour.
Ici, tous les jeunes partent, mais ils peuvent très vite revenir.
Pour moi, c'est qu'un passage, j'aimerais pas m'en rappeler. Même si j'ai eu des bons souvenirs ici, c'est une mauvaise étape de ma vie et j'ai pas envie de rester comme un fantôme ici.
Ce documentaire, tu l'as... Tu as pu le faire entendre à divers endroits?
Mais il vient de sortir, donc pas pour le moment. C'est ça, on l'a mis en ligne sur la plateforme de Radiola semaine passée.
Oui, c'est vraiment là tout récent.
Ouais. Et c'est ça, là je pense que je vais m'occuper un peu de la diffusion et de réfléchir à des espaces où ça pourrait être intéressant de le faire écouter. J'aimerais bien déjà qu'il soit écouté... dans le foyer de Alia. Et puis peut-être, oui, dans des écoles secondaires ou je ne sais pas trop encore exactement comment, mais En tout cas, j'ai l'impression, pour avoir, donc, quand on a fait des ateliers de radio et de musique avec Léa et Célia, on en a fait aussi une petite pièce sonore, radio et musicale. Et pour l'avoir un petit peu fait écouter à des ados, ils sont très très réceptifs de ces paroles-là, quoi. En fait, tout simplement, parce que il y a quand même peu de, c'est des paroles qui sont peu entendues. On entend peu les moins de 18 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui faites de la radio, mais.
Sûr.
Même si on peut quand même citer le travail incroyable de Samarcon.
Oui, j'y pensais. Ouais. Ah, ouais, tout à fait.
Ouais, magnifique, magnifique émission en radio par. Non, c'est l'AMO à Samarcande et l'émission radio Samarcande avec c'est les ça. Carnets de route où on entend régulièrement des jeunes qui sont en IPPJ pendant une heure d'émission radio nous parler un peu de leur parcours. Ouais, c'est vraiment un super travail.
Avec une parole très libre et super intéressante, c'est clair.
Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que ces âges-là sont pas plus entendus que ça, en effet.
Mmh.
Ouais. Et alors, justement, Chloé, dans cette troisième partie, elle a 16 ans 17
Ouais, 17.
17. Et puis, elle va arriver à sa majorité.
Ouais.
Et donc, on se demande à ce moment-là, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait ?
C'est ça, mais en fait, il se passe rien. Il se passe rien et voir c'est-à-dire que ça ne change pas la donne, le fait qu'elle soit majeure et donc elle va être majeure en IPPJ et ce qu'on apprend aussi c'est qu'en fait elle est sous ce joug-là jusqu'à ses 20 ans, c'est-à-dire qu'elle peut retourner en IPPJ jusqu'à ses 20 ans.
Ouais, ça a été très étonnant pour moi à ce moment-là.
ça finira
quand,
jamais.
Quoi, c'est ça.
Ouais. Ouais. Oui, puis là, ce qu'elle disait... donc maintenant, elle est sortie, elle est dehors. Mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle est quand même sur un fil, quoi. C'est-à-dire que... Ça crée des précédents, évidemment, et que la moindre chose fait que ce sera retour, effectivement, en IPPJ, voire... bon, mais peut-être ça sert à rien de spéculer là-dessus, c'est pas du tout ce qui se passe, ni on l'espère ce qui va se passer, mais oui, ça crée une espèce d'épée de Damoclès comme ça.
Oui, puis c'est une réalité pour elle, mais pour d'autres.
Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait.
Oui, sur la fin, c'est même... On a même un peu l'impression qu'elle craint la sortie et de se dire mais voilà, enfin le moindre écart, enfin ouais c'est vraiment la crête, le moindre écart fatal et que finalement, enfin ouais, il y a, je sais pas combien de temps elle a passé, je sais pas si Chloé était, je sais pas si c'est elle qui dit que elle a quasi passé toute sa vie également au foyer et IPPJ. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment le truc que j'ai entendu sur la fin, c'est vraiment cette crainte de sortir et de partir dans le grand bain, je sais pas.
Bah ouais. Ouais, ouais, mais là aussi, c'est cette ambivalence avec se projeter en permanence à l'extérieur dans ce que pourrait être une vie dehors. Et le moment où ça arrive, mais c'est. C'est vraiment vertigineux, surtout quand voilà, il n'y a pas un cadre très accueillant à l'extérieur et que effectivement on a beaucoup été placé précédemment, et il se trouve que Chloé elle a particulièrement fait une longue peine parce qu'elle là elle avait fait deux ans en IPPJ, puis effectivement elle avait déjà fait un passage non, je crois qu'elle a elle a fait deux fois un an, peut-être la deuxième fois un peu plus d'une année. Mais c'est quand même des longs séjours. Et bon, se retrouver dehors du jour au lendemain, oui, c'est abyssal. Et puis, comme elle dit, il y a quand même des liens affectifs forts qui se créent, forcément, quoi. Heureusement.
Oui. On va écouter le dernier extrait que tu nous proposes.
Ouais.
Allô ?
Et coucou Chloé.
Coucou, ça va ?
Ouais, et toi ?
Oui, ça va, mon projet avance. J'ai eu mon rapport aujourd'hui, donc ça s'est super bien passé.
Trop bien. T'as eu le rapport de qui ?
Ben, en fait, les rapports ici, quand on est en éducation, ça se fait tous les 3 mois, donc un rapport trimestriel. Et tous les soirs, les éducs font des notes sur nous, par exemple, comportement OK, pas OK, en retrait, en contact avec le groupe, des trucs, enfin des notes neutres. Et après, c'est rapporté, entre guillemets, à la chef du pavillon, l'assistante sociale, la psychologue, la prof référente. Et en fait, c'est un bilan des mois qui se sont passés. Et c'est le dernier que j'aurai avant ma fin de placement. Et puis, je me mettrai à la recherche d'appartement. Donc, pour moi, j'espère pour décembre, normalement, je devrais partir. Surtout que vu que je suis majeure en février, je vais me trouver un travail ou une formation.
Ok.
Je dois y aller.
Ouais, ça marche.
Ok. Je dois y aller.
Ouais, très bien. Et bah, passe une bonne après-midi et puis on se parle bientôt.
Merci à toi aussi.
Ciao.
Salut.
Il y a aussi tout un vocabulaire juridique hyper impressionnant. Tu te dis, mais comment on arrive à faire qu'une ado puisse prononcer tous ces termes, en fait ?
Ouais, ouais, bah ça, c'est le cas de toutes. Elles, oui. Elles connaissent évidemment tout. C'est ça, tout ce jargon, tous ces métiers, toutes ces personnes à qui elles sont confrontées régulièrement. Et mais c'est à la fin de la deuxième partie, il y a comme un cœur qui fait une liste de tous ces termes-là qui en fait constituent leur quotidien, que ce soit des juges, des avocats, des psychologues, des médiations, des blablabla. Et ouais, c'est vrai que ça aussi c'est impressionnant d'être familiarisé à tout cet appareil judiciaire. Sitôt, quoi.
Et cette valeur des mots, elle se transforme aussi à un autre moment en poésie.
Oui. Mais ça, c'est pour le coup la rencontre avec Chloé, qui avait une pratique d'écriture quand elle était en IPPJ et qui écrit super bien. Et du coup, qui a lu plusieurs de ses textes au micro. Aussi au téléphone, donc c'était des moments très touchants où elle me lisait des choses qu'elle avait pu écrire dans la semaine ou en amont. Et ouais, c'est des moments qui sont particulièrement forts, je trouve.
Et ça continue en plus.
Ça a continué un petit peu à la sortie. Peut-être on spoile pas tout.
Non, mais... c'est ça.
Mais
j'allais pas en dire plus.
Ouais, c'est vrai. Mais oui, là, elle a fait une petite pause écriture.
Et là, t'as envie de quoi avec ce documentaire, tu disais voilà, qu'il soit entendu par des jeunes et est-ce que qu'il soit entendu par des éducateurs, des gens, des éducatrices, des gens qui travaillent aussi dans tous ces milieux-là, est-ce que ça aiderait aussi à entendre d'une autre façon?
Bah, j'espère, oui. Il y a une bonne amie à moi qui est éduque et qui était assez chamboulée par le documentaire et qui effectivement, non seulement elle éduque, mais en plus elle enseigne dans une école d'éduque. Et oui, elle trouvait ça, enfin elle allait dans ce sens-là de dire que ce serait super intéressant que des jeunes qui se forment à ce métier entendent cette parole-là, ces paroles-là. pour réhumaniser l'affaire, en fait, tout simplement, que de se rendre compte des vécus et de continuer d'avoir de l'empathie, de l'attention dans ces métiers, ce qui est super difficile, hein. Enfin, je veux dire, quand c'est un quotidien avec un niveau d'intensité, voire de violence très fort, je pense que c'est vraiment pas facile de...
Un encadrement, une hiérarchie...
Tout à fait, ouais. Des horaires lourds, ouais. C'est pas facile de rester à l'écoute et dans le sensible, quoi.
Et justement, ça peut permettre de remettre en question certaines choses, prendre un peu de hauteur.
Oui, oui, j'espère.
Oui, aussi. C'est ça. Il est 8h53 dans les promesses de l'aube ce matin. On est donc avec Kabiria Chomel qui vient de nous présenter donc, son documentaire. Mais pourquoi j'ai un trou comme
la fugue
et le canon.
On peut donc l'écouter sur la plateforme Radiola.
Ouais, sur la plateforme radiola.be, qui est donc la plateforme liée à la CSR, l'atelier de création sonore et radiophonique, qui m'a aussi accompagnée dans la réalisation de ce documentaire, et qui est aussi en ligne sur mon SoundCloud, Kabiria Chomel.
Voilà, facile.
On mettra les liens.
Oui, on mettra les liens
sur le site.
Super. Tout à fait. Ben, on te remercie, Kabiria.
Ben, merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter quelque chose?
Non, je crois pas. On est bien. Okay. Ah si, peut-être, pardon. Juste citer Maria Teria Eva qui a fait la musique de ce documentaire et qui a quand même une place importante aussi dans la pièce. Et qui, je trouve, a fait un très très beau travail qui se matche bien avec... qui se marie bien avec la parole des filles. Voilà.
Merci Kabiria.
Merci à vous.